Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 17e numéro de GKL, un magazine d'actualité proposé et préparé par les écoliers de CM1-CM2 de l'école française d'Ampadrianum. Pour la deuxième saison qui débute ce soir, j'ai autour de moi 6 nouveaux chroniqueurs, certes un peu angoissés mais surtout très impatients de vous faire partager leur premier sujet. Bonsoir Karima.
Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs.
Quel sujet d'actualité a retenu particulièrement ton attention cette semaine ?
Je vais vous parler de l'enlèvement des deux journalistes de France 3, mercredi dernier, au nord-est de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. On pense que ce sont les terroristes talibans qui les ont enlevés. Mais depuis, nous sommes sans nouvelles des deux reporters, même si Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères, se veut rassurant.
Tout le monde pense qu'ils sont vivants. Et ce que nous savons, le parcours qu'ils ont effectué, très grossièrement, nous le prouve, oui.
Pourquoi les Occidentaux se font-ils kidnapper ?
Le pays est en guerre depuis plusieurs années. Pour comprendre, il faut remonter à 2001 avec l'attentat d'Al-Qaïda du 11 septembre qui avait détruit avec deux avions les tours jumelles du World Trade Center.
Quel est le rapport avec la guerre en Afghanistan ?
Oussama Ben Laden, le chef des terroristes, s'est réfugié chez les talibans en Afghanistan. Les soldats américains, aidés surtout par les Européens, ont chassé les talibans de Kaboul, mais ils résistent encore dans les montagnes. Ces rebelles posent des bombes artisanales le long des routes et prennent en otage des journalistes, comme ceux de France 3.
Ce conflit paraît interminable.
Oui, et les morts sont nombreux. En 2009, plus de 300 militaires américains ont péri. Pourtant, Barack Obama ne se décourage pas et vient d'envoyer 30 000 soldats en renfort. On écoute les explications du président américain.
Il doit être clair pour tout le monde, les Afghans vont devoir assumer leurs responsabilités pour la sécurité. L'Amérique n'a aucun intérêt à faire une guerre sans fin. Il est de notre intérêt national vital d'envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. Après 18 mois, les troupes commenceront à rentrer à la maison.
Quelle est la vie des Afghans aujourd'hui, Karima ?
Le pays est très pauvre et dévasté. La situation des enfants est catastrophique, avec le plus fort taux de mortalité infantile au monde.
Bonsoir Lily. Quel est le sujet de ton coup de colère ?
Bonsoir à tous. Je veux parler des pirates d'aujourd'hui. Nous débutons tout juste l'année 2010 et déjà deux navires ont été détournés par des pirates somaliens. Un cargo, l'Asian Glory, transportant des automobiles, et un navire indonésien transportant des produits chimiques avec à chaque fois 25 hommes d'équipage.
Ces prises d'otages sont-elles fréquentes ?
Oui. Malgré la présence de bateaux militaires qui surveillent les côtes de la Corne de l'Afrique, les pirates se sont emparés de 43 navires en 2009. À chaque fois, les bandits demandent des rançons en échange de la libération des bateaux et des équipages. Par exemple, le 27 décembre, un cargo chinois transportant du charbon a été libéré contre 4 millions de dollars livrés par un hélicoptère.
Lily, pourquoi la Somalie n'empêche pas les pirates de continuer leurs attaques ?
C'est très difficile. La Somalie est en guerre civile depuis presque 20 ans. Le pays est divisé entre chefferies. Il y a un an, le président Abdullah Yusuf Ahmed a même démissionné car il n'arrivait pas à mettre fin à la guerre.
Bonsoir Soheil.
Bonsoir Stéphane.
Quels événements sportifs ont retenu ton attention ?
Je vais tout d'abord vous parler de football.
C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations va bientôt commencer.
La 27e édition de la CAN débutera dimanche en Angola. 4 stades tout neufs accueilleront jusqu'à la fin du mois les 16 meilleures équipes africaines.
Madagascar est-il qualifié ?
Malheureusement, non. Les Baréas ont échoué de justesse. Ils ont terminé 3e de leur groupe, juste derrière le Mozambique.
Quels seront les favoris de la compétition ?
Plusieurs équipes peuvent remporter la coupe. Le Cameroun, avec son attaquant Samuel Eto'o, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte et surtout la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. On écoute Jacques Anouma, le président de la Fédération ivoirienne.
L'objectif aujourd'hui que nous nous sommes fixés, c'est de faire tout pour amener le trophée en Côte d'Ivoire. Nous connaissons déjà le Burkina, le Ghana. On a moins joué contre le Togo, on connaît pas du tout. Donc nous respectons ces adversaires-là. Je pense qu'aujourd'hui, le Ghana fait partie des équipes les plus réputées d'Afrique. C'est pas pour rien qu'on appelle cette poule encore la poule de la mort. J'ai l'impression qu'on ne fait que tirer des poules difficiles. Mais bon, disons que c'est jouable.
Quelques mots de sport mécanique ?
Oui, l'année débute comme tous les ans avec le Dakar. L'épreuve se déroule depuis l'an passé en Argentine et au Chili.
Qui mène la course ?
En moto, c'est le Français Cyril Després sur KTM qui est en tête au moment où les concurrents pénètrent au Chili. Et en auto, c'est Stéphane Peterhansel sur BMW, mais il est poursuivi par 3 Volkswagen.
Bonsoir Carla, quel est le sujet de ta rubrique ?
Bonsoir à tous, je vais vous raconter une histoire incroyable. La malédiction des jumeaux de Mananzar, une ville située sur la côte sud-est de Madagascar.
En quoi consiste cette malédiction ?
Chez les Entambok, une ethnie malgache, avoir des jumeaux porte malheur, alors on les abandonne. Mais il y a un siècle, c'était bien pire. Leur crâne était fracassé sous les sabots des zébus.
Mais pourquoi les jumeaux sont-ils maudits dans cette région ?
Il y a plusieurs hypothèses. À son arrivée à l'embouchure du fleuve Sakaleun, au nord de Mananzar, le premier Entambok aurait choisi son épouse parmi les femmes de la région. Enceinte de jumeaux, elle mourut en accouchant. Le malheur frappa sa deuxième puis sa troisième épouse. L'homme jura alors que sa descendance n'élèverait jamais de jumeaux. Une autre explication est donnée par le responsable d'un orphelinat de Mananzar dans un reportage de Grégoire Portier pour RFI.
Dans la règne des rois, il y avait des attaques sur le village des Entambok et ils fuyaient. Dans la panique, ils ont oublié l'un des jumeaux. Ils sont revenus pour la rechercher et se sont fait tuer. Alors, le chef a dit que désormais, nous ne le font plus de jumeaux.
D'autres légendes existent encore. Mais ce qui est sûr, c'est que les chefs traditionnels sont encore très écoutés.
Et que fait-on pour sauver ces enfants aujourd'hui ?
Les mentalités changent peu à peu. Mais pour éviter qu'un chef Entambok ne croise ses jumeaux, beaucoup sont encore abandonnés dans un orphelinat. Aujourd'hui, une vingtaine d'enfants attendent des parents adoptifs, la plupart du temps français.
Bonsoir Mara, tu veux nous parler d'un roman, je crois.
Effectivement, je vais vous parler du Chasseur de mouches, un roman de jeunesse dont le héros, Man, est un jeune garçon des rues de Tananarive.
Et pour traiter le sujet, le mieux est bien sûr de rencontrer l'auteur.
Oui, et cela n'a pas été facile, car Daniel Fossette réside maintenant aux Antilles. Heureusement, nous l'avons retrouvé et elle a accepté à distance de répondre à nos questions. Bonsoir Daniel Fossette. Où avez-vous trouvé l'inspiration du Chasseur de mouches ?
Alors, le Chasseur de mouches, c'était l'histoire avant tout d'un petit garçon que j'ai rencontré à Tananarive, qui était un gardien de voiture, que je côtoyais régulièrement quand j'allais faire mes courses. Et ce petit garçon est venu habiter chez moi pendant quelques années quand je lui ai proposé de quitter la rue.
Dans l'histoire, Mam a fait plein de petits métiers différents. Gardien de voiture, des chaussards.
Pourquoi avez-vous choisi celui de chasseur de mouches comme titre du roman ?
Je trouve ça drôle parce que souvent on parle des chasseurs de lions. Bon, là, c'était un chasseur de mouches. Il y avait un côté un peu dérisoire. Et puis, à Madagascar, à Tananarive en particulier, sur les étals des bouchers, il y a beaucoup de mouches. Les enfants sont chargés de faire ce métier. Puis, c'était aussi les petits souvenirs qui revenaient comme des mouches devant ses yeux, qui le gênaient pour sa vie en France.
Votre roman raconte la vie d'un jeune enfant des rues qui a réellement existé. Vous l'avez recueilli et scolarisé. Racontez-nous un peu son histoire. Pourquoi lui ? Quel âge avait-il ? Comment s'est passée sa scolarité ?
Alors pourquoi lui ? Parce qu'un jour, un petit peu avant Noël, il a refusé la pièce que je lui donnais pour le payer de son travail et il m'a dit « c'est tout ce que je peux t'offrir pour Noël, mais je veux te l'offrir ». Et pour un petit garçon qui vivait dans la rue, qui était en haillons, j'ai trouvé que c'était une grande générosité. Alors il avait en réalité un peu plus que l'âge que je lui ai donné dans le roman, il avait probablement une douzaine d'années, il ne savait pas exactement quel âge il avait. Et sa scolarité, ben, il a dû aller en CP à 12 ans, c'était pas évident, les autres se moquaient de lui, mais il a tenu bon, il avait envie vraiment d'apprendre à lire et à écrire.
Et maintenant, qu'est-il devenu ?
Alors ce qu'il est devenu, bien 15 ans après, je l'ai revu par le plus grand des hasards, enfin si on peut appeler ça comme ça, j'ai eu envie de savoir ce qu'il était devenu, je n'avais plus du tout de nouvelles. Et en 24 heures, je l'ai retrouvé à Tananarive. Je n'avais que son nom et son prénom, c'est tout. Il n'y avait plus d'adresse. Et je suis arrivée juste à temps pour lui sauver la vie. Il était gravement malade et je suis arrivée le jour qu'il fallait.
Avez-vous des nouvelles ?
Alors aujourd'hui, j'ai encore des nouvelles de lui. On s'écrit maintenant régulièrement et là, ça y est, maintenant, il va bien.
Quels sont vos projets actuels ? Écrirez-vous un autre livre sur Madagascar ?
Depuis Madagascar, j'ai habité Mayotte, puis la Martinique. Donc maintenant, mes livres se situent plus là-bas. Mais c'est toujours un pays auquel je suis attachée. Donc Madagascar reviendra certainement dans mes projets un jour.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien.
Au revoir Mara, merci.
Et si jamais Mam ou un de ses proches nous écoute ce soir, qu'il n'hésite pas à venir nous voir dans les studios d'RTA.
Ce soir, nous sommes vraiment très heureux pour la reprise de JKL d'accueillir dans le studio de Wanatu notre premier invité. Jean reçoit Théo du groupe Mikea.
Bonsoir Théo.
Bonsoir Jean et bonne année 2010 mon petit frère.
Merci. Vous avez gagné le prix Découverte RFI l'an passé. En quoi consistait ce prix ?
Prix Découverte RFI, c'est vraiment un prix très important pour les artistes africains parce que c'est grâce à ces prix à nous permettre de voyager un peu partout dans le monde pour faire connaître la musique malgache et la culture malgache.
Où avez-vous voyagé grâce à la tournée organisée par RFI ?
Beaucoup, surtout en Afrique, en France, on a voyagé, on a fait des tournées en France, en Belgique, en Allemagne, pas mal aussi. Mais on a commencé des tournées, c'était au Tchad, au Gabon, Burkina Faso, Bamako, Mali, Ouagadougou, Nouakchott, Mauritanie, Cap-Vert. En fait, c'est Afrique de l'Ouest. Donc, et puis la tournée, ça ne restait pas là. On va continuer la tournée aussi cette année, 2010. Donc, on va continuer au Canada et un peu aussi en Europe.
Qu'est-ce que cela a changé pour vous ?
A changé notre vie parce qu'on a découvert beaucoup de choses en Europe, en Afrique. On a rencontré pas mal, beaucoup des artistes africains, beaucoup de gens. Et puis ça a changé la vie aussi, habituellement, parce qu'on a gagné un peu. C'était pas comme avant, parce qu'avant, on a beaucoup galéré.
Quel est votre meilleur souvenir de cette tournée ?
Surtout, c'était au Crozon. Au Bretagne, festival, grand festival au bout du monde, il y avait 30 000 spectateurs. C'est la première fois qu'on a joué devant 30 000 spectateurs en France, en Europe. Et les gens étaient vraiment très, très, très intéressés à la musique malgache. Ils ont acheté l'album Tahouli, notre dernier album.
Avez-vous rencontré d'autres artistes ?
On a bien remarqué notre rencontre avec Ismaïlo, c'était au Dakar, au Sénégal surtout.
Au mois de décembre, pourquoi avez-vous invité Radjer à votre concert du CCAC ?
Ah oui, parce que Radjer c'est un grand frère, il a travaillé beaucoup avec moi surtout. Lui, il m'a aidé beaucoup. C'est lui qui a produit notre premier album qui s'intitule Lung. J'ai travaillé avec Radjer pendant 3 ans.
Quand sortira votre prochain album?
Prochain album maintenant, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, parce que l'album Taouli vient de sortir, c'était mois de juin 2009 en Europe.
Vos chansons parlent des Mikéa, un peuple du sud-ouest de Madagascar, de leur solitude, de la déforestation. Pouvez-vous nous chanter quelques couplets?
Oui, en fait, notre chanson parle de la solitude et la déforestation et... Il y a pas mal de chansons d'amour aussi, et surtout la nostalgie. Avant, moi, j'ai créé des groupes et j'ai donné le nom Mikéa pour pouvoir parler la région Mikéa, la région Masco. C'est vraiment une région perdue à Madagascar, même les Malgaches ne connaissaient pas très bien. Une chanson qui s'intitule « Et deux gens ». Vunze mangulumarwe, vunze nare uzandarwe tengale, vunze mangulumaro, vunze rifanza kanana ingi. Ça veut dire aide aux gens. Les gouvernements regardent les gens, regardent les Malgaches, le peuple Mikéa, la déforestation. Il faut qu'on aide les gens font.
Merci,
merci Jean, et merci, moi je suis vraiment très très content de discuter avec vous.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
C'est maintenant l'heure de vous faire gagner le magnifique t-shirt de l'émission, une nouvelle collection offerte par Move. Pour cela, il faudra être le plus rapide à la question qui va suivre. Nous vous rappelons que vous pouvez jouer par internet à l'adresse jkl@move.mg ou bien par SMS au 032 32 007 65 ou encore au 033 56 007 65 ou enfin au 034 34 007 65 en n'oubliant pas d'indiquer JK et un tiret avant la bonne réponse. À vos touches téléphoniques, voici la question. Dans quel pays africain se déroulera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui commence dimanche? Merci à notre formidable technicien Zou. Salutations à nos auditeurs éloignés qui nous écoutent par internet, qu'ils soient Machinga, Chaland ou Rabat. La semaine prochaine, nous recevrons l'astronome Monsieur Charles qui nous parlera de la prochaine éclipse visible à Madagascar. Bonne soirée sur Wanatu.